France Culture.
Siete mai stati su un pullman di pellegrini che vanno a Pomigliano d'Arco? Alla Madonna? A una delle sette Madonne? Bisogna andarci.
Evviva Maria, Maria sempre viva, evviva Maria, incoronata sei tu.
C'è stata signora vestita d'oro che picchiaccia su trena dell'amore.
Evviva Maria, Maria sempre viva, evviva Maria, incoronata sei tu.
Ce que j'aime vraiment, c'est de raconter. Et j'aime la musique qui raconte. Donc, en fait, j'aurais dû faire le conteur d'histoire, le troubadour, le trouvier, mais je me suis trompée de siècle, je ne peux pas. Et en plus, je me suis trompée aussi de niveau social, je suis de la bourgeoisie, tandis que ça, ça naît vraiment dans la campagne. Je suis une bourgeoise, je connais les langages de bourgeois, et je me suis mise à travailler la langue musicale populaire comme une autre langue.
Giovanna Malini, 1937-2024, Voix savante et populaire. Un documentaire de Coralie Martin, réalisé par Benjamin Hu.
Je suis née dans la musique.
Giovanna Malini.
C'est-à-dire que je suis fille d'un compositeur musicien très très doué des premières années de 1900. Il est né, mon père, en 1907, qui est mort à 29 ans, exactement quand je suis née. Donc je suis née dans le deuil de la mort d'un homme précieux, parce que c'était le meilleur des grands musiciens de cette époque-là. Et une mère musicienne, très bonne compositrice. Et donc j'ai grandi dans la musique. Je n'ai pas pu m'en sortir. Je me souviens, mon frère aîné me dit un jour, « Je n'en peux plus, je dois sortir de cette musique. Je veux faire l'avocat, moi !» Tant que je dis, « Moi, je veux faire le médecin. » Je m'en tire, moi aussi, je m'en sors. On essayait de sortir de la musique, nous autres. Et toute la famille qui se désespérait. Mon grand-père, ma grand-mère qui était musicienne, elle aussi. Donc c'était au contraire que des normales familles où les gens se désespèrent si un enfant veut faire le trompettiste, par exemple.
Et ovviamente tutto questo.
Évidemment, dans sa famille, tout le monde s'attendait à ce qu'elle étudie le piano.
Pianoforte.
Ignazio Macchiarella. Ethnomusicologue.
Éventuellement la composition, mais le piano, en tout état de cause, était l'instrument de Giovanna. Giovanna a choisi de jouer de la guitare. Un choix qui n'a pas été apprécié du tout par sa famille. Sa mère, par exemple, lui disait avec mépris que la guitare, c'était l'instrument des voituriers. Pour expliquer ce terme de voiturier, il se réfère à une réalité de Naples où les gens qui placent les voitures chantent des chansons populaires. Dans la rue.
Ça me semblait l'instrument le plus lointain de la musique classique. Donc j'ai dit, prenons la guitare. Déjà, je connaissais tout le monde au conservatoire, donc je suis entrée tranquillement.
Il est indéniable que Giovanna aveva, avec son instrument, un rapport complexe et aussi très cohérent. Elle l'a utilisé pour la composition de ses œuvres. Et il faut signaler qu'elle a été également la première italienne, la première femme à se diplômer en guitare au conservatoire, bien avant les élèves masculins qui étaient inscrits à ce cours de guitare et qui ensuite sont devenus les concertistes célèbres que l'on connaît. Par ailleurs, Giovanna participait de manière intense à la vie du conservatoire et notamment elle était très impliquée dans le chœur du conservatoire dans le cadre d'une activité du chœur qui était la reproposition de musique de l'époque baroque. Et à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Peu de chœurs se dédiaient à ce répertoire baroque.
Che si dedicavano a questo tipo di musica a quel tempo.
C'était 1958 quand finalement j'eus un bon travail à Rome. Il s'agissait d'aller jouer la guitare rigoureusement classique dans les fêtes de la Rome intelligente. Et me voilà une soirée dans un bel appartement près de Piazza di Spagna. Je jette un coup d'œil professionnel sur le public. Je me dis, il leur faut du Bach. Je sors mon instrument, je me mets à jouer. Je joue. Tout d'un coup, j'ai l'impression que quelqu'un écoute. Je soulève le regard et je vois un jeune homme, la main dans les poches, la tête un peu penchée, un très beau sourire. Il écoute avec une intensité qui me frappe. Flatté, je continue à jouer. Je joue. 5 minutes après, il me dit, « Et si tu nous chantais quelque chose ?» Je me dis, « Mon Dieu, le voilà !» Toutes les fois, à ces fêtes intelligentes, il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit, « Tu nous chantes au sole mio ?» Et je me dis, il avait vraiment raison, mon grand-père, quand il disait qu'il n'y a rien de plus ignorant qu'un intellectuel quand tu le sors de son domaine spécifique. Donc, je ne lui réponds même pas et je continue à jouer. Tout d'un coup, c'est lui qui chante. Six aviensis fantasinis, seque son suspir d'amour, e assi morsi va sottiare ange mosse sin dolor. Je dis bien. Tu chantes juste. Dans quel livre l'as-tu trouvé cette chanson? Il me dit, les chansons ne se trouvent pas dans les livres. Je lui dis, ah non? Et je lui chante une laude. Et je lui dis, voilà, ça sort d'un livre. Laudario di Cortona, 1315. Il me dit, oui, mais avant d'être sur le livre, elle était chantée par les gens dans les places, parce que c'est de la culture orale. Ces deux mots me bouleversent. Je sortais d'un lycée classique tenu par les religieuses qui garantissait une ignorance complète. Il écoute, il me chante Bella Ciao, je ne connaissais pas. Il me chante Le Otto Ore, un chant de femme de rizière. Je ne savais même pas ce que c'était une rizière. Nous continuons comme ça. Pour être à la hauteur, je lui chante une berceuse de mon grand-père. 11 février 58, c'est ma première rencontre avec Pier Paolo Pasolini.
Ce qui est indéniable, c'est que cette rencontre qui a effectivement eu lieu a été le point de départ de l'intérêt que Giovanna a manifesté pour ce qui, à l'époque, s'appelait la musique populaire. Et il faut expliquer que Pasolini, à l'époque, était considéré comme un expert en matière de musique populaire parce qu'il avait publié un recueil de poèmes de cette langue populaire. Il s'intéressait principalement aux paroles et aux verbes.
J'ai compris là que j'avais devant moi quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est lui qui m'a dit, mais va connaître ces gens qui font les récoltes de chants, pourquoi tu restes ici sans connaître ces choses? J'ai dit, mais moi je suis musicienne. Et il disait, mais bien, c'est exactement pour ça que tu devrais connaître aussi ça. La musique n'est pas seulement la musique classique, il y a d'autres branches. Donc il m'a tout expliqué. Et puis c'est vrai, après ça, je suis partie pour connaître ces gens. Et quand je les ai connus, toutes les fois que je rencontrais Pasolini, je disais, écoute, je te remercie, tu m'as fait connaître un monde extraordinaire. Il était tout content.
Benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo.
Je suis mariée, j'ai eu le bébé, tout ça, fin années 50. Et puis donc je jouais dans un ensemble de musique du Moyen-Âge. Puis finalement, nous avons ouvert une cave qui s'appelait Folk Studio à Rome, avec un type qui s'appelait Harold Bradley, un Américain. Et il m'a dit, on fait de la musique populaire. Je n'en savais rien. Je dis oui, mais moi je joue du Bach. Ah ben ça va, il est populaire, disait-il. Bon, je dis bon, très bien. Donc je suis allée. Là est arrivé Roberto Leidi, qui avait les éditions à Milan de musique de tradition orale, celle qu'on chante dans les campagnes. Et donc Roberto Leidi m'a entendu chanter des ballades de troubadour du Moyen Âge. Et il m'a dit, mais viens à Milan, nous on fait des recherches sur la musique de la campagne, toi tu es avec ces choses très vieilles comme ça, tu es proche de ça, viens écouter. Et là je suis entrée dans un monde complètement différent.
Il folk music revival est un mouvement politique ou musical?
Le mouvement folk music revival a été un mouvement politico-musical qui est né dans au début des années 60 à Milan, en collaboration avec Cantacrona, qui était un mouvement similaire ancré à Turin. Pour donner une idée de ce mouvement qui regroupait des intellectuels, Umberto Eco en faisait partie. Et en fait, ce mouvement avait pour objectif de ramener sur scène les musiques traditionnelles orales et collectait ces musiques dans le nord de l'Italie et éventuellement dans l'Italie centrale.
Tous ces gens qui étaient passionnés de ça étaient des anthropologues, n'étaient pas des musiciens. Donc je me trouvais être la seule musicienne dans un monde de gens très cultivés. Des anthropologues communistes, socialistes, des gens qui écrivaient beaucoup sur l'anthropologie, l'ethnie, et donc les problèmes des gens, donc des champs sociaux. Ils disaient, ces gens chantent, écoutons ce qu'ils disent, et tous ils étaient très experts sur les mots des chants.
Alors, ce qui est indéniable, en revanche, c'est que la rencontre que fait Giovanna de la musique traditionnelle populaire se fait dans le cadre d'une rencontre importante avec le groupe Nuovo Canzoniere Italiano.
Silenzio! Elaborate più in fretta!
L'Andreina è troppo vecchia, la risaia non regge più.
Quand j'ai commencé, j'étais seule et j'ai rencontré bientôt un groupe de cantastorie. Les chanteurs d'histoire, qu'en Italie, il y a la tradition de ça. Bien sûr, je les avais rejoints de la ville, tandis que eux, ils étaient de la campagne. Et ils m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses. La façon de l'émission de la voix, que vous avez entendue, est complètement différente de la voix de la ville. Je dis la voix de la bourgeoisie, parce que c'est vraiment un fait d'éducation. La voix paysanne est considérée vulgaire dans l'ambiance plus bourgeois. Ils ne font pas des hurlements, ils ne poussent pas des cris, ils sont bien élevés, n'est-ce pas? Tandis qu'à la campagne, il y a une autre façon d'user la voix, il n'y a pas de citophone, microphone, téléphone. C'était une autre condition de vie, une autre qualité de vie, alors on usait la voix.
Noi andremo a Roma, davanti al Papa e al Re. Noi grideremo ai potenti che la miseria c'è.
Vivait avec les bergers d'Orgosolo en Sardaigne, avec les paysans de la Bassa Padana, vous savez, de la plaine du Pô. Dans les fermes, il y avait ces hommes extraordinaires qui travaillaient toute la nuit aux vaches, aux bœufs, à les soigner. Et nous, on était là à faire nos réunions d'études qui devenaient de plus en plus politiques, en plus parce que c'était les années 60 où l'Italie a bougé énormément. Donc j'ai vécu un moment très long, merveilleux, dont vraiment je ne regrette rien. C'était le grand amusement. Je m'amusais tout le temps. Puis nous faisions des concerts avec la musique qu'on avait récoltée. Puis je me suis mise à écrire parce que ça me plaisait et en plus parce que c'était ma culture d'écrire de la musique. C'était la seule chose que je savais faire. Et c'est pour ça que je suis arrivée à ce mélange, voilà.
Bia la campagne non ci sta nessuno. via la valle. Ce chant-là, ça raconte les brouillards de l'hiver au moment de la récolte des olives.
Xavier Rebu, chanteur, compositeur et directeur de l'ensemble Quartetto Urbano.
C'est une très belle histoire, parce qu'aujourd'hui on le retrouve chanté un peu partout. Tout le monde, parce que c'est une mélodie magnifique, a envie de la chanter. Beaucoup de chorales la chantent aussi, sans savoir beaucoup de choses sur le chant italien, mais ils la chantent. Et donc c'est devenu vraiment un patrimoine populaire. En fait, l'histoire de cette chanson, c'est que Giovanna, dans les années 60, quand elle a commencé sa collaboration avec le Nuovo Canzoniere Italiano, de faire des concerts avec eux, les premiers spectacles, elle n'avait encore pas de recherche propre de matériel populaire, de collectage. Elle connaissait très peu de chants. Et donc, le besoin de la scène aussi et du partage avec les autres de morceaux a fait qu'elle a dit « je vais en inventer un ». Et donc, elle a pris ce texte semi-populaire, un dialecte des Abruzzes, et elle l'a mis en musique. Et c'est devenu ce chant que tout le monde connaît, et tout le monde pense que c'est un chant traditionnel, mais pas du tout. Donc, c'est vraiment elle qui l'a écrit. Et il faut aller la réécouter, elle qui la chantait, donc vraiment dans le disque qui s'appelle Bella Ciao, et qui est le témoignage de ce spectacle tellement important de 1964, qui était le début de beaucoup de choses, où les gens du Nuovo Canzoniere chantaient avec des protagonistes du chant traditionnel sur scène. C'est ça qui a créé justement un choc dans la société bourgeoise de l'époque, qui ne supportait pas de voir ces voix paysannes sur la scène.
È venuta l'ora di guardarci un po' in faccia, scuotere le braccia, contarci gli uniti, i sopravvissuti. È lontano il tempo del 63 che andavamo a cantare per Milano con rigore salutare. È lontano il tempo del 64 quando a Spoleto c'était le 64 Festival des deux mondes. Nous voilà! E puis il y avait Giovanna Daffini. C'était une grande chanteuse. Elle nous a rejoint, elle était âgée, elle avait 60 ans quand elle travaillait avec nous, mais elle était extraordinaire, la plus forte de tous, elle nous racontait toute sa vie dans la rizière, toujours en chantant. Le public, tout d'un coup, s'est fâché. Nous étions en train de chanter un chant de la guerre du 15-18 qui disait « Traditori, signori ufficiali, traîtres, messieurs les officiers, che la guerra l'avete voluta, vous avez voulu cette guerre, scannatori di carne, venduta, nous sommes chers vendus. Questa guerra ci insegna a punir. Cette guerre nous enseigne à vous punir. Et voilà qu'une voix immédiatement a dit « Vive l'Italie !» Et notre voix « Vive les officiers !» En haut, il y avait tous les parents de la Daffini. Ça faisait 200 personnes. Elle était venue avec tout le pays. Ils ont immédiatement commencé « bandiera rossa » de réponse. L'hymne communiste. À moitié, on chantait « Fratelli d'Italia », l'hymne de la patrie italienne. Il ne manquait rien. Quelle topographie musicale. Oui, il manquait quelque chose. C'était pas encore tout clair. Et en effet, la comtesse, la première qui avait parlé, parle encore et dit la chose juste, parce qu'elle dit « Et j'ai pas payé 2000 lire pour venir ici entendre chanter sur le plateau ma femme de chambre. » Nous, on s'est regardé un peu étonné, pris de contre-pied. Pas la Daffini. Elle a compris immédiatement. Elle a décroché sa guitare, elle a marché sur la comtesse pour rétablir cette distance culturelle entre elle et la comtesse. C'est de ces années-là que nous vous racontons maintenant.
Ce spectacle m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai été connue immédiatement en Italie. Peut-être pas de la juste façon, parce qu'on m'a connue seulement comme celle qui hurlait des choses politiques, n'est-ce pas? Explicitement politiques. Tandis que mon métier était d'être musicienne ou musiciste, c'est pas comment dire.
À la mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, irrisata.
Questo aspetto è fondamentale per capire
Ignazio Macchiarella,
la carriera compositiva di Giovanna, per capire quello che succede.
Cet aspect
dopo,
fondamental de la carrière de Giovanna qui s'ouvre après les années 70, elle comprend que c'est la recherche des sons, que son intérêt doit se focaliser sur la recherche de ces sons-là, ceux-mêmes de Giovanna da Fini. Ces sons qui, à l'époque, se perdaient parce que la gamme tempérée a déformé notre oreille et nous sommes désormais pratiquement incapables de percevoir d'autres sons que ceux réglés par cette gamme tempérée.
Je suis arrivée à la campagne, mais j'avais un maître extraordinaire qui était un sociologue qui s'appelait Ernesto De Martino, qui me disait « M'apporte pas le magnétophone, tu dois vivre là beaucoup de temps avant que tu puisses te servir d'un magnétophone, parce que le magnétophone gêne tout le monde. » Donc je suis allée et j'ai vu qu'il chantait comme Claudio Villa dès que j'allumais le magnétophone. Donc j'ai arrêté tout ça, j'ai enlevé tout ça. J'ai resté là, j'ai amené mes enfants avec moi parce qu'ils étaient un peu petits. Nous sommes restés un an et demi au Pouille. Nous avons vécu là vraiment avec les enfants et tout le monde en apprenant beaucoup, beaucoup. Et à la fin, je suis allée avec le magnétophone 5 ans après que j'avais commencé ça, à dire bon, maintenant chantez-moi, sinon j'oublie. Et puis j'ai écrit parce que la partition est plus intéressante. On fait un effort de mémoire, mais la mémoire corrige toujours. Si je vous fais... Je ne sais pas. Eccoci bella mia. Bon, sur un magnétophone, c'est juste, c'est parfait, n'est-ce pas? Mais personne ne le souviendra comme ça. Tout le monde corrigera à selon de sa culture musicale. Moi, j'enlèverai immédiatement le fa diesis, par exemple, et je chanterai Eccoci bella mia. Parce que c'est plus proche à notre culture de maintenant. Donc on corrige. Alors j'ai eu le besoin d'écrire tout ça sur un papier spécial que j'ai fait faire avec des carreaux pour faire des diagrammes, des dessins, que eux aussi, les paysans, pouvaient suivre et nous faisions des dessins ensemble de leur musique.
Con fagioletta mano, con fagioletta mano.
La musique que j'ai entendue me semblait tellement primitive, tellement différente de celle que j'avais étudiée, que ça devenait de l'avant-garde quand même. Et donc, heureusement, tous ceux que j'avais étudiés et travaillés au conservatoire de musique m'a aidé à la comprendre, parce que c'est difficile, autrement c'est un langage qui ne nous appartient pas.
Diciamo che l'etnomusicologia di Giovanna è molto particolare. Diciamo che...
Giovanna a développé une ethnomusicologie très particulière. En Italie, on l'a considérée comme celle qui faisait de la recherche pour sauvegarder des chants traditionnels populaires qui allaient disparaître. En réalité, son intérêt était principalement sur l'aspect sonore du chant, la tradition orale. En ce sens, elle n'avait pas le culte du document sonore. Les ethnomusicologues sont souvent accusés d'être fétichistes parce qu'ils ont ce culte du document sonore. Mais plus que le document sonore pour elle, c'était les personnes qui étaient importantes. Et donc, elle recueillait, elle pratiquait la collecte donc de ces chants, mais elle allait aussi jusqu'à chanter avec les personnes qu'elle rencontrait, ce qui était bien évidemment quelque chose d'absolument horrible, condamné de la manière la plus sévère par les ethnomusicologues.
Je ne suis pas ethnomusicologue, moi je suis simplement musicienne ethnique, je ne savais rien, anthropologue, je ne suis pas du tout, je ne connais pas ça. Mais tout le monde pense que je suis ça parce que je les inventais, les chants populaires. Je disais, oui, je l'ai trouvé dans les Abruzzes, dans la montagne, mais je l'avais inventé parce que c'était beaucoup plus facile. Et quand j'écoutais les vrais chants populaires, ils ne disaient jamais ce que j'aurais voulu qu'ils disent, vous voyez? Et alors, je les inventais ainsi qu'ils disaient exactement ce que je voulais qu'ils disent. Puis j'ai compris que c'était pas bien de faire ça, alors je les ai cherchés un peu. Mais je cherchais les chants et j'ai trouvé les gens qui étaient beaucoup sympathiques. Et j'ai continué à aimer beaucoup les gens et moins les chants. C'est-à-dire, les chants me plaisent énormément quand ils sont intéressants du point de vue musical. Mais toute cette recherche sur le texte comme ça que font les vrais savants qui étudient ces choses,
Je ne les ai pas faites. Je ne me gloire pas de ça, pas du tout. Mais c'est la vérité, il faut la dire à un bon moment.
Andavano col treno giù nel meridione per fare una grande manifestazione il 22 d'ottobre del 72. In curva il treno che pareva un balcone coi balconi con le coperte per la processione. Il treno era coperto di bandiere rosse, slogan, cartelli scritti a mano. Da Roma Ostiense 1200 operai, vecchi, giovani e donne con i bastoni e le bandiere arrotolate, portati tutti a mazzo sulle spalle. Il treno parte, pare un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino, si ferma e non vuole più partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione. Tutti corrono coi megafoni in mano e richiamano, andiamo via Cassino. Compagni, da quel regio tutto un campo minato, chi vuole si rimette in cammino. Dopo un'ora quel treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione. Anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino.
Elle avait la nécessité de dire quelque chose. Donc souvent c'était un texte par exemple qui amenait la musique. C'était le besoin de raconter comme I treni per Reggio Calabria. Et ça, elle l'a raconté mille fois pourquoi elle a écrit ça. Elle a vécu ce voyage en train jusqu'à Reggio et elle est revenue avec ce besoin de le dire. Alors comment je vais l'écrire? Comment je vais le dire en musique? Et en plus, il y a beaucoup à dire et elle a trouvé cette façon qui vient, comme elle disait, elle, ça venait du talking blues américain qu'elle avait entendu en Amérique. Mais c'est un peu un précurseur du rap, en fait. Mais ça vient aussi des poètes populaires, ça vient aussi de recitar cantando, toute une, oui, un art musical qui est au service aussi d'un récit.
La vecchia et la figlia delle finiture, il marito alla verniciatura. La figlia della figlia alle tappezzerie, stanno in viaggio ormai da più di 20 ore. Aspettano seduti, sereni e contenti, sopra le bombe non gliene importa niente. Aspettano che tutta una vita che stanno ad aspettare per un certificato mattinate intere, anni e anni per due soldi di pensione. Erano 23 anni più forti del tritolo, guardare quelle facce bastava solo. Con la notte, le stelle e con la luna, i binari stanno luccicanti, mai guardati con tanta attenzione. E camminato sulle traversine, ma individuata una regione, dai sassi della massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare, piano piano passo d'uomo, pareva che il treno si facesse portare, tirato per le briglie come un cavallo tirato dal suo padrone.
En 73, Renato Fasano, qui était alors le directeur du Conservatoire de Rome, a appelé Gazzlini, Giorgio Gazzlini, qui était un pianiste jazz, un bon pianiste, pour enseigner le jazz au Conservatoire. Gazzlini est entré au Conservatoire et les autres enseignants, après 2 ou 3 mois, se sont absolument révoltés contre cette histoire en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a que des gens l'air minable avec les cheveux longs. » Salles qui viennent ici jouer leur musique affreuse. Notre conservatoire perd complètement de dignité. Ils ont fait tellement d'histoires que la classe a été immédiatement supprimée. Beaucoup de musiciens étaient allés au cours pour s'amuser, pour se rencontrer, pour avoir un lieu d'encontre où faire de la musique. Alors en sortant de là, toute Rome a su ça. Et eux, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on a pris la passion à se rencontrer. Squattons un local de Rome et on s'y place dedans. À l'époque, il y avait Testaccio, qui était le vieux abattoir complètement vide et abandonné. Et il y avait les maisons des gardiens de l'abattoir, vides elles aussi. Et nous sommes entrés là-dedans, il y avait des figuiers qui croissaient dedans, on les a enlevés, on a commencé à refaire toute la maison et nous sommes allés. Eux, ils m'ont appelé pour dire « aide-nous en apportant les voix ici ». Parce que chacun arrivait avec ses élèves, ses expériences. Et voilà que l'école s'est formée de but en blanc. Nous avons eu 100 élèves en 10 jours.
Pronto Testaccio.
Testaccio a été important vraiment dans son parcours d'avoir ce laboratoire, on va dire, vraiment un laboratoire ouvert pour créer de la musique, pour essayer de transformer, de transmettre, d'inventer aussi à travers ce lien important qu'elle avait tissé déjà avec le monde populaire. Donc Testaccio s'est développé à partir des années 70 et a été vraiment un exemple pour plein d'autres écoles de musique qui sont nés après, parce qu'à l'époque, il n'existait que les conservatoires. Donc ça a vraiment été une des premières. Et a formé beaucoup de musiciens, a permis à des projets de prendre forme, un vrai échange. C'était un lieu où on pouvait faire vraiment l'expérience de toutes sortes de musiques, et qui est fondamental pour quelqu'un qui commence la musique, qui n'a pas besoin de choisir tout de suite ni un instrument, ni une direction, mais tout était possible.
Et tous ceux qui, oui, ils sont venus, c'était la chose amusante, que c'était des gens qui ne savaient rien de musique, mais beaucoup de politique. Parce qu'on sortait des années 60 avec l'engagement et tout ça, et on commençait à sentir que ça ne s'est pas c'est plus bien à niveau politique. Il y avait beaucoup d'ambiguïté. Il y avait déjà le terrorisme qui commençait à se former et on n'y comprenait plus rien. On ne comprenait plus s'il y avait des infiltrés dans le terrorisme, s'il n'y en avait pas. Donc, on avait peur. Et donc, on a découvert à cette époque que c'était plus... Le slogan était « C'est plus intéressant un solo de Charlie Parker que de chanter Bandiera Rossa ». Parce qu'on a dit, bon, étudions quelque chose, commençons à faire des choses en profondeur, parce qu'à ce moment-ci, dans la politique, on n'y comprend plus rien. Et donc, ça a allé très vite. On a commencé en 1974, 10 ans après, c'était déjà une grande école. Ce matin-là, j'étais à Milan et je devais aller au théâtre. On chantait dans un théâtre. Et donc, moi, j'étais pleine de projets. Je voulais parler à Pasolini de ça, de cette pièce, des chants. Et voilà que tout d'un coup, la nouvelle qu'il est mort, et c'était atroce. Nous nous sommes précipités à la télévision et nous avons vu Moravia, Siciliano, tous les amis de Pasolini qui étaient sur le lieu. Et on a vu ce lieu si terriblement moche, si absurde.
Ma quella notte volevo parlare, la pioggia, fango e l'auto per scappare, solo morire lì vicino al mare. Ma quella notte volevo parlare e non può più parlare.
Le quatuor vocal est né en 76 parce que j'ai commencé à vouloir que quelqu'un chante les polyphonies que j'écrivais. Parce qu'avant, je les chantais toutes seules dans les studios. Je faisais les voix l'une et je les mettais l'une sur l'autre. Je faisais un message. Alors, en 76, finalement, j'avais des élèves à l'école de Testaccio et je les ai priés de chanter avec moi les polyphonies. C'est comme ça que le quatuor est né.
La poétique du cantare et narrare era molto importante per Giovanna.
La poétique du chanter et raconter est fondamentale et très importante pour Giovanna. Et son émanation est ce fameux quatuor féminin qu'elle a créé. Une création qui, à l'époque, était très originale. On peut même parler de nouveauté. vérité absolue. Aujourd'hui, il en existe d'autres, mais à l'époque, c'était véritablement très original. Giovanna a raconté en plaisantant que la formation était née par hasard, parce qu'elle expliquait en disant « je n'ai pas trouvé d'hommes, les hommes manquaient ». En fait, elle avait écrit une partition pour un chœur de taille réduite, mais elle disait qu'elle n'avait pas pu trouver les voix masculines et donc elle s'était rabattue sur les voix féminines. En réalité, en utilisant un quatuor, elle reprenait un nombre qui est quasiment magique dans le domaine de la musique, le nombre 4, qui est absolument fondamental pour la musique occidentale et qui reflète les fondements de l'harmonie classique et de la musique savante. Donc on peut dire qu'en créant ce quatuor, elle renouait en définitive avec cette musique savante.
Che possiamo definire alta.
Giovanna, elle écrivait tout.
Patrizia Bovi, chanteuse et membre du quatuor vocal de Giovanna Marini.
Ça semble un paradoxe, mais elle avait développé une méthode pour écrire aussi des choses qui sont très difficiles à écrire dans une notation moderne, mesurée, etc. Et puis elle composait toute la cantate en suivant le rythme de la parole. Donc il y avait des parties qui étaient comme un talking blues, et d'autres parties qui étaient en polyphonie, en contrepoint, dans un rythme. Et puis, il y avait des alternances constantes avec la musique de tradition orale et les élaborations de la musique de tradition orale. Donc, c'était assez varié. Et on passait d'un morceau à l'autre en changeant la sonorité vocale. Et tout ça, elle nous demandait vraiment d'aller au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, d'être capable à faire. Toujours. Ça a été un pari incroyable. Et finalement, à la fin, quand on montait sur scène, tout ça, le public ne l'entendait pas. Ça veut dire que le public avait une expérience totale du texte de Giovanna, de la musique que tout le monde pouvait comprendre facilement, mais en même temps, des morceaux de musique contemporaine absolument difficiles qui... S'ils étaient dans un contexte classique, etc., probablement les gens qui venaient à entendre le quatuor n'auraient jamais entendu. C'était difficile à classifier. Ça veut dire où tu invites le quatuor de Giovanna Marini à se produire, au-delà du théâtre, dans un festival de musique classique, dans un festival de musique contemporaine, dans un festival de musique jazz ou de musique world. On était... toutes ces choses ensemble. Donc, on rentrait pas dans ces boîtes, tu vois. Alors, grâce au fait que Giovanna avait cette capacité incroyable d'être un storyteller, une conteuse d'histoires, donc le théâtre, ça a été effectivement le lieu que nous a accueillis le plus fréquemment. Ah.
Facciamo finta che Patrizia è il priore e fa la tonica.
Io l'amministratore, per piacere, faccio la quinta, e poi i giovinetti fanno la terza e le ottave, perché devono essere giovani e più spregiudicati. Re minore, Mi minore, Re minore, Do maggiore col ritardo, sentite bene.
Et en plus, Giovanni avait une autre caractéristique que normalement les compositeurs contemporains ils n'ont pas. Les compositeurs classiques de musique contemporaine, ils veulent absolument que ce qu'ils ont écrit dans la partition soit reproduit le plus fidèlement possible. Ça, c'est une caractéristique de la musique classique. Ce que faisait Giovanna, c'était totalement différent. Ça veut dire qu'elle avait besoin d'écrire sa musique, mais après de la faire passer dans l'instrument quatuor, donc que nous, on la chantait, on la vivait totalement, on l'intégrait dans notre vocalité, et après qu'on l'a tournée, qu'on a tourné la cantate pendant, je sais pas, 3, 4, 5 mois, elle réécrivait la partition. Bien sûr, elle chantait dans l'équateur, elle n'était pas, elle assistait pas comme un compositeur à l'exhibition, mais elle était partie de l'exhibition. Donc, elle changeait des choses, elle aussi. Moi, je changeais des choses. Et ça, pour moi, c'était la première et unique fois que j'ai eu cette expérience. Je n'ai jamais eu une chose pareille dans ma vie.
Parfois, l'erreur est beaucoup mieux que ce que j'ai écrit. Et alors, on garde l'erreur. Donc, c'est tout un travail, un work in progress, un peu. C'est-à-dire, on part d'un canevas écrit avec une certaine précision sur la hauteur des notes, moins. Mais le rythme, par exemple, la cadence, je ne l'écris pas forcément. Quand je ne sais pas encore, je la laisse aux mots, aux syllabes, parce que c'est vrai que je suis nourrie, après le conservatoire, de l'étude du langage du chant des traditions orales, du chant populaire de la campagne, qui est très différent. Dans le chant populaire, il n'y a pas le rythme. Vous ne sentirez jamais un chant en 6-8, par exemple. Tan, 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 tan. Et mamma me voy anche una mona cella. Si quelqu'un vous chante comme ça, c'est un faux. On le comprend parce que elle ne donne pas ce sentiment, elles font mamma me voy anche una monacella, et donc ce n'est pas 1, 2, 3, mais c'est mamma me voy anche una monacella, ces syllabes là placées comme on les veut placer pour faire résonner bien sa voix, déclencher les battements avec l'autre. C'est toute une recherche acoustique. C'est une esthétique complètement opposée. Et parfois, j'écris en vue de cette esthétique-là, mais j'écris comme j'ai appris au conservatoire. Donc, c'est effectivement, comme vous disiez, il y a le baroque, il y a un peu de tout là-dedans, vous voyez. Mais c'est la façon d'interpréter des filles qui rend la chose plus intéressante.
Il y avait un langage qu'on avait développé qui nous permettait de faire des improvisations, parce que ça aussi c'est une improvisation. Ça veut dire ça arrive exactement à ces moments-là. On l'a pas répété avant, et le résultat on l'a à ces moments-là. L'autre chose que Giovanna a toujours insisté, dont il a vraiment, il y tenait beaucoup, c'était le fait que l'imitation de ce que était la tradition orale ne peut pas se passer sur scène. Ça veut dire que tu ne peux pas reproduire en imitant exactement ce qu'un chanteur, il chantait dans le chant ou dans une procession ou pendant un rituel dans l'église, etc., quand tu es sur scène au théâtre. Ça doit changer. Tu dois comprendre bien d'où vient cette musique, et l'origine, etc., et lui redonner sur scène une nouvelle fonction.
Je voudrais qu'on fasse un peu un exercice d'amener la voix avec le corps jusqu'en haut, mais sans hurler. Et sans sortir seulement avec le nez, de la porter doucement.
Cours de Giovanna Malini à Paris 8, 1994.
Elle doit monter la voix, n'est-ce pas, vers les aigus, en allant un peu dans la tête, forcément, mais sans nécessairement abandonner le corps.
en la portant avec soi. Hier, j'écoutais une petite comédienne qui me faisait une petite audition comme ça. Elle chantait un chant que j'ai toujours chanté qui est fait « N'est bien la vallée, n'est bien... » Alors, elle hurlait, voilà, vous le connaissez parce que... Elle hurlait à plein poumon et tout était bloqué ici. « N'est bien la vallée !» C'était horrible parce qu'elle étranglait dans la gorge, vous voyez. Et je dis « Mais non, mais sors ta voix naturelle, ta voix comme tu parles, fais-le, porte... » Et petit à petit, voilà que sa voix est arrivée, c'était beaucoup plus agréable.
Je m'appelle Roberto Greif. Maintenant, je suis chef de chœur et chanteur. Et quand j'ai rencontré Giovanna, j'étais encore danseur contemporain. Giovanna Marini, déjà, je l'écoutais en Italie quand j'étais étudiant, à l'université, à Padoue. J'étais fan, parce que c'était quelqu'un qui était sur les barricades à l'époque. Donc nous, on avait une grande admiration. J'étais allé voir un requiem qu'elle avait composé et qui m'avait totalement fasciné. Et donc, je l'avais rencontré, je lui avais demandé si elle donnait des cours. Elle m'avait dit oui, oui, à l'université de Paris 8 de Saint-Denis. Et puis, donc, quelques années après, je suis arrivé en France et je me suis précipité à l'université de Paris 8 à Saint-Denis. Et là, j'ai eu la vraie rencontre avec Giovanna Marini et son précieux enseignement. Ça a été une fulguration, vraiment.
Écoutez-vous et que ce soit agréable pour vous. Que ce ne soit pas l'effort de ressembler à quelque chose. Non, 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 ça doit être votre voix. Et puis, on essaiera de mettre de la couleur quand on veut, quand on en a besoin, alors de colorer un peu plus avec le nez. Capite, hein? Essayez de faire courir la voix. Ouvrez la gorge, la bouche, tout, et faites-la aller en poussant d'ici. Hein?
Male la bella, la bella bella d'ici.
Répétez.
Male la bella d'ici.
Par là.
Male la bella.
L'enseignement à Paris, ça s'appelait, c'était un cours d'ethnomusicologie appliquée et du travail sur les chants paysans. À l'époque, il y avait 7-8 étudiants qui suivaient les cours au niveau officiel, disons. Et puis, il y avait toute une troupe de sauvages, c'était nous, donc des gens qui venaient d'autres horizons, de la danse ou des comédiens, ou des gens qui avaient d'autres professions, qui n'étaient pas des chanteurs, mais qui suivaient les cours. Et donc, on était arrivé presque à 100 personnes, 80 personnes. Et à travers l'écoute, nous, on apprenait à chanter, et puis elle nous expliquait beaucoup de choses. Et surtout, son enseignement, ça, j'ai toujours dit à Giovanna, que son enseignement était un enseignement plus éthique qu'esthétique. On travaillait l'esthétique du chant paysan, mais après, ce qu'elle nous apprenait, c'était l'éthique, donc la vie de ces gens et pourquoi ça chantait comme ça.
Et donc, essayons de faire l'année, essayons surtout de sortir une voix naturelle. Naturelle veut dire qu'on pousse d'ici, mais qu'on n'étrangle jamais ici. Hein? Essayons un peu. L'année.
Tania Pividori, je suis chanteuse, je fais de la polyphonie italienne de tradition orale, soit avec la formation du Quatuor San Accor, maintenant depuis 30 ans, peut-être un peu plus, et puis je transmets aussi ce répertoire.
Je suis Anne Garceneau, je suis musicienne, instrumentiste, chanteuse, chef de chœur, et j'enseigne. C'était de l'ethnologie musicale et sociale. C'est-à-dire qu'à travers ces musiques-là, elle nous dépeignait des us et coutumes attachés à chaque région. Hein. Elle nous parlait de tous ces chants liés à des rituels et intimement liés aussi à ces pratiques religieuses qu'elle appelait de religiosité populaire. Enfin, ce qu'elle nous a fait comprendre, c'est que la mère qui pleure cet homme sur la croix, c'est toutes les femmes du monde qui pleurent le deuil de leur enfant.
J'ai vu que les élèves se passionnaient et c'était important, surtout l'écoute. Donc j'ai entraîné tous les élèves français avec les Italiens et nous partions en Calabre, en Sicile, en Sardaigne, tous ensemble. Et à la fin, on était 120 et on tombait dans un tout petit pays qui, par exemple, avait 60 habitants comme un Monte d'Or.
Les voyages, ça a démarré petit, on va dire, il y avait à 2, 3, 4 voitures avec quelques étudiants de Rome et puis quelques étudiants de Paris, dont on faisait partie avec Anne Garceneau. Et on a fini à 2 bus où là, l'affaire nous avait un peu échappé des mains. Mais ce qui était quand même formidable, c'est que le fait d'arriver avec énormément de personnes dans un village de la montagne calabraise, par exemple, donnait à notre présence une valeur à l'époque que peut-être les habitants, pour certains, n'avaient pas complètement perçu. En fait, ces chants-là, jusqu'aux années 80, 90, ont été un petit peu mis à l'écart parce que, bon, on est allé beaucoup à Pâques, hein, donc l'Église a un grand poids de censure. Et puis, certains disent oui, mais c'est des vieux trucs. Et en fait, c'est d'une modernité, ça mélange des sons qu'on n'entendra nulle part. On se souvient d'une église en Calabre, justement, avec des chœurs d'hommes, avec des harmonies, des battements qu'on n'avait jamais entendus.
San Accord, ça a été une soudain. On s'est rencontrés donc avec Tania Pividori, Anne-Éléonore Beauvon, Christine Lavedère et donc moi sur ses premières années à Saint-Denis. C'est vrai que l'image du Quatuor de Joanne à 4 femmes qui a développé autour d'elle cette force féminine nous a beaucoup beaucoup parlé. Et donc, au bout d'un an, on s'est retrouvés à 4 à reprendre ses chants et avec l'autorisation de Giovanna. Ça a été une grande histoire au début. Quand je lui ai dit que San Accord prenait forme, que je commençais à lui faire écouter, elle était assez fière. Et elle nous a même écrit des chants pour nous 4 avec cette écriture inouïe qu'elle avait.
Joanna Marin est à mettre dans les grands compositeurs de musique contemporaine, inclassable, mais superbe. On reconnaît l'empreinte de cette écriture. On entend un morceau du quatuor vocal et on dit, mais oui, c'est une composition de Joanna Marini.
Je retiens de Joanna une grande humanité, un grand amour pour les gens et une grande intellectuelle aussi. Elle était une grande intellectuelle et compositrice, mais d'une simplicité et d'une... Elle était humble et simple. Quelqu'un vraiment... qui aimait les personnes, qui nous a fait aimer la musique par l'amour des personnes. Et sa vie était au service de la musique, mais ce n'était pas, c'était pas une musicienne loin de la réalité, c'était une musicienne dans la réalité des gens. Et ça, c'était vraiment peut-être le plus grand enseignement. Et donc, je vois les gens différemment aussi, et surtout les gens qui chantent, je les vois différemment qu'avant.
Voyager et travailler avec Giovanna, avec le quatuor, avec les dames, comme elle les appelait, elle nous appelait les dames, c'était magnifique. Giovanna, c'était un plaisir de parler avec elle parce qu'elle avait toujours une réflexion envers de l'univers contemporain, ce qui se passait, la politique, etc. Vraiment, qui te permettait de comprendre mieux ce qui se passait. Parce que vraiment, une grande intellectuelle, Giovanna était. Et on a eu vraiment la chance de partager plein de choses comme ça, plein de réflexions aussi sur la vie. On rigolait. Pendant les voyages, quand on se déplaçait d'une ville à l'autre, on avait pour une période un tour manager et il guidait la voiture. Et bien sûr, il ne comprenait pas l'italien. Donc, nous, les 4, on parlait de sexe, de choses un peu plus piquantes, comme ça. aussi des histoires d'amour, des choses comme ça, et on rigolait. Et nous, quelquefois, on traduisait des choses, mais les choses un peu plus piquantes, on les traduisait pas. Et donc, il disait toujours que c'était frustrant pour lui parce qu'il perdait le mieux de ce qu'on se racontait. Oui, j'ai toujours pensé au Quatuor comme un corps avec quatre têtes. C'était comme ça qu'on était devenus, parce qu'on passait tellement de temps ensemble que c'était un organisme. On était vraiment un instrument avec Giovanna qui nous guidait.
Oh Venezia, che sei la più bella. Oh Venise, tu es la plus belle. Et toi, mon tout, tu es la plus forte. L'eau tourne autour de tes portes. Ce sera difficile de te prendre. On chante ensemble. Oh Venezia, che sei la più bella.
Oh Venezia, che sei la più bella.
Très important de continuer à chanter cette musique, à la transmettre. Tout d'abord parce qu'elle est encore vivante, même si certaines choses ont disparu, c'est vrai. Mais c'est encore vivant, les gens chantent encore dans les campagnes, il y a encore de la transmission. Si on regarde la Sardaigne, les jeunes vont apprendre ou réapprendre à chanter à Concorde, où ils vont écouter les plus anciens. C'est très riche, c'est très vivant encore, et partout encore. En Italie, on va trouver des traces de cette façon d'être ensemble, de chanter, et des gens qui ont envie de réapprendre. Ça ne parle pas du passé, ça parle à chaque fois de quelque chose qui nous reconnecte à aujourd'hui, à ici et maintenant, à être ensemble, à chanter ensemble.
Merci à Ignacio Macarella, Xavier Rebu, Patricia Bovi, Anne Garceneau, Tania Pividori, Roberto Graif et à l'Institut culturel italien de Paris. Traduction Elisabeth Faure. Prise de son Bruno Mourlan, Éric Perruchot-Triboulet et Lucien Lefebvre. Mixage Pierre-Henri. Archivina Ingrid Lecointe. Chargée de programme Sandrine Chaperon. Coordination Emmanuel Laurentin. Giovanna Malini, 1937-2024, Voix savante et populaire. Un documentaire de Coralie Martin, réalisé par Benjamin Hu.